Macnovtchina, Macnovtchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Par les monts et par les plaines, dans la neige et dans le vent, à travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. À travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. Au printemps, les traités de Lénine ont livré l'Ukraine aux Allemands. À l'automne, la Macnovtchina les avait jetés au vent. À l'automne, la Macnovtchina les avait jetés au vent. Macnovtchina, Macnovtchina, armée noire de nos partisans, qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs. Qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs. L'armée blanche de Denikine est entrée en Ukraine en chantant, mais bientôt la Macnovtchina l'a dispersée dans le vent. Mais bientôt la Macnovtchina l'a dispersée dans le vent. Macnovtchina, Macnovtchina, armée noire de nos partisans, qui voulait chasser d'Ukraine à jamais tous les tyrans. Qui voulait chasser d'Ukraine à jamais tous les tyrans. Macnovtchina, Macnovtchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Macnovtchina, Macnovtchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang.
Radio Libertaire 89.4, les chroniques syndicales, nous nous devions aujourd'hui, pour le 40e anniversaire de Radio Libertaire, de le mettre sous l'égide des compagnons anarchistes qui, en 18-21, ont résisté à l'armée rouge et à l'armée blanche. Et on sait aujourd'hui qu'un certain nombre de compagnons anarchistes d'Ukraine tentent de s'organiser pour résister, même s'ils sont comme nous, contre toutes les guerres. Et effectivement, ils refusent toute annexion, comme on l'a dit déjà, bien, bien avant. Voilà, donc on est en direct sur Radio Libertaire. Ce sont les 40 ans de cette radio que vous écoutez, on l'imagine. Et donc durant tout le week-end, on va avoir à la fois des discussions, des débats, des concerts, des interventions sur un certain nombre de thèmes. Mais le programme est sur le site de Radio Libertaire que vous pouvez consulter pour peu que vous soyez possesseur d'un ordinateur et d'un lien numérique. Voilà, et donc on va commencer cette première matinée sous le fait que nous sommes dans un moment politique important, et nous avons pensé, puisque Radio Libertaire est une radio politique, faire un échange, un premier échange sur la question des élections, avec la question de l'abstention révolutionnaire, comment ça fonctionne et pourquoi nous la prenons aujourd'hui, sachant qu'on va intervenir aussi bien Francis que moi-même. Alors moi, j'anime les chroniques syndicales sur Radio Libertaire.
Et Francis, moi-même, j'anime avec d'autres amis l'émission Au fil des pages, qui présente des livres et des livres de sociologie et des livres politiques.
Voilà, et donc, après une brève intervention de l'un et de l'autre, ceux qui souhaiteront intervenir sur cette question des élections et de l'abstention révolutionnaire, vous aurez bien évidemment la parole. On a des micros HF qui pourront se balader pour peu que vous les baladiez. Voilà. Donc, on va démarrer vers un premier point d'histoire, peut-être, puisque le débat dans lequel nous sommes aujourd'hui est introduit dès les années 1790, hein, autour d'un personnage en particulier, mais pas seulement, qui s'appelle Seyès. Et Seyès va tout mettre en œuvre pour que ce soit la démocratie représentative qui prenne le pas sur la démocratie directe, hein, sachant que les libéraux et les jacobins sont pour la représentation, ils sont supposés représenter le peuple, puisqu'ils ont déjà la vérité, comme les léninistes l'auront probablement ou la revendiqueront probablement ultérieurement, et ils considèrent que le peuple, qui est peu éduqué à l'époque, est dans l'incapacité absolue de pouvoir s'autogouverner. Malgré l'existence d'une première commune de Paris dans les années 1790-1792, où effectivement les sans-culottes font fonctionner la démocratie directe. Néanmoins, la bourgeoisie va prendre les choses en main, le peuple n'est pas éduqué, donc, eh bien, on va savoir ce qui est bon pour lui. Dans les années 1830-1848, autre étape, les royautés qui se sont réinstallées vont inventer quelque chose de tout à fait intéressant qui s'appelle le suffrage censitaire. Donc il y a un certain nombre d'hommes, et seulement d'hommes, qui auront le droit de voter, à condition toutefois de payer l'impôt, donc d'être des nantis, et d'être cultivés. Là encore, les monarchistes libéraux, ou pas d'ailleurs, considèrent que le peuple n'est pas en capacité de se gouverner puisqu'il est inculte. Alors on sait qu'historiquement, c'est absolument faux, puisqu'en Espagne, 1936-1939, un certain nombre de camarades anarchistes espagnols de la CNT et de la FAI étaient des paysans analphabètes qui étaient tout à fait en capacité de gérer leur propre village, voire des régions entières. Je continue mon petit périple. 1848, donc, grande révolution ouvrière, très vite là aussi, révolution qui va être désavouée par la bourgeoisie, qui va écraser le peuple parisien. Il y a 5 et 6 000 morts dans la répression de juin 48. Et là encore, on va considérer, malgré le suffrage universel des hommes et seulement des hommes, 1848, eh bien qu'il va falloir se méfier de cette classe ouvrière qui voudrait s'auto-organiser, parce qu'on sait que la classe ouvrière est avant tout, pour ces gens-là, une classe dangereuse. Autre moment où la question de la démocratie directe et de la non-représentation va se poser, c'est durant la Commune de Paris, 1871. Effectivement, il y a des gens qui vont être élus dans les arrondissements parisiens, hein, pour gérer la ville, comme les officiers d'ailleurs seront élus par la troupe, avec la question, c'est certes, il y a des formes de représentation, et là c'est tout à fait intéressant, ces formes de représentation, eh bien, les délégués parisiens sont contrôlés et sont révocables. Et à partir de ce moment-là, ça pose autrement la question de la délégation. Ce n'est pas une délégation de 5 ans ou de 7 ans avec un blanc-seing et un chèque en blanc, si vous préférez, mais c'est une délégation qui est régulièrement contrôlée dans les arrondissements par la population. 1848, je vous disais, suffrage universel, ça n'a rien changé. La grande bourgeoisie, banquière, industrielle, a continué à gérer les affaires, voire à réprimer la population quand elle avait des velléités d'émancipation. 1871, vous savez comment ça se termine. Et suite à 71, la Seconde République va se mettre en place et la Seconde République restera représentative et pas très démocratique, puisqu'il y a une chambre qui est quasi-royaliste qui rentre en ligne de compte. Voilà. Deuxième grande étape du suffrage universel, qui pour le coup va réellement être universel, c'est le suffrage universel des femmes et des hommes, c'est 1944. Et là encore, suffrage universel qui, de fait, n'a rien changé. La grande bourgeoisie d'affaires, la grande bourgeoisie industrielle est toujours aux affaires et le monde que nous avons connu n'a pas changé de ce point de vue-là. Ceux qui décident le décident pour nous, voire contre nous. Voilà. Et enfin, pour montrer que là encore, dans la représentation, c'est le chemin de la grande trahison, je vais vous donner 3 dates et puis j'en arrêterai là et je passerai la parole à Francis. Première date, c'est le Front populaire. Alors certes, le Front populaire, il y a des avancées sociales extrêmement importantes, mais qui ne sont pas prévues dans le programme du Front populaire. C'est parce qu'il y a des occupations directes de la population ouvrière et de la population des quartiers que ces réformes vont se faire. Ce qui veut bien dire que là, le peuple est en capacité d'auto-organiser sa résistance et de porter ses propres revendications. Sachant que le Front populaire sera rapidement trahi, là encore, retour de la bourgeoisie autour des radicaux et d'une partie de la SFIO, donc le Parti socialiste de l'époque. Deuxième grande trahison, certains ici l'ont connu, parce que 36 c'est un peu ancien pour nous, c'est 1980, où un certain nombre d'entre nous, mais pas moi, je vous rassure, enfin si ça vous intéresse, ne se sont pas trompés sur le devenir de ce qu'allait devenir l'élection de François Mitterrand. On savait, historiquement, que ce serait une trahison et que ça ne manquerait pas de faire ce que ça faisait avant, c'est-à-dire gérer au mieux le capital. Et enfin, dernière grande trahison de la représentation de gauche, je ne parle pas de l'autre qui est payé pour ça, c'est Hollande, qui avait qu'un seul ennemi, le grand capital et la finance, et qui a conduit les lois El Khomri contre le travail.
Je rajouterai au titre des trahisons la trahison de Jacques Chirac, qui, vous vous rappelez, s'était fait élire contre Jean-Marie Le Pen. Il fallait qu'on se dresse contre l'extrême droite parce que lui allait en plus mener une autre politique. Et on s'est aperçu qu'on a eu une politique de droite, on a eu une politique conservatrice, de remise en cause d'un certain nombre de libertés publiques et d'acquis sociaux. Donc en fait, la question que je me pose, que ça sera intéressant qu'on réfléchisse là-dessus à un instant, en plus de la notion d'abstention révolutionnaire, c'est presque une forme d'oxymore. On va voir comment ça pourrait s'organiser. C'est que
oxymore, c'est une contradiction non résolvable, c'est ça?
Ouais, c'est, ouais. Hein, c'est ouais, voilà. Ouais. Comment donc ça pourrait être?
Ça pourrait.
Donc voilà. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la discussion autour du fonctionnement démocratique. C'est-à-dire que nous sommes en France dans un pays qui est géré par une constitution, ça c'est pas en soi, c'est pas le scoop, qui affirme pour ensuite limiter. Un peu d'ailleurs comme la Déclaration des droits de l'homme de 89. On affirme la souveraineté nationale. On dit la souveraineté nationale, c'est-à-dire le pouvoir de gérer l'avenir de la société en fonction de certaines valeurs, etc., appartient au peuple, grand 1, pour ceux qui ont fait du droit, toutefois grand 2, le plan en deux parties, qu'il l'exerce par ses représentants, autrement dit, qui se trouve limité dans l'exercice de ses pouvoirs, puisqu'il confie pour 5 ans élection présidentielle, élection législative, à d'autres le soin de diriger ensuite les affaires du pays. Et en fait, c'est une forme de dépossession de longue durée. On nous donne le pouvoir pendant une minute, le temps de mettre le bulletin dans l'urne. On nous dépossède pendant 5 ans, pendant 6 ans pour les sénatoriales, pendant 6 ans pour les collectivités territoriales. Et je suis d'une commune où les gens sont aujourd'hui en train de gémir sur le thème « Ah, vous avez vu ce que le maire a fait, ce qu'il est en train de détruire, etc. » J'ai dit « Mais attendez, il y a quelques mois, parce que finalement il n'y a jamais quelques mois, vous avez voté pour lui. » Donc attention, il faut quand même se rappeler d'un certain nombre de choses. Et là, il y a une mobilisation qui devrait être beaucoup plus forte. Autrement dit, la notion de d'abstention aux élections, mais révolutionnaire, c'est-à-dire de prise du pouvoir d'une autre manière. C'est ce qu'on discutera probablement. Et puis, il y a un autre point aussi qui est très important, c'est que le mandat est non impératif. Dans la Constitution, il est interdit de donner un mandat impératif, c'est-à-dire de dire, voilà, vous êtes élu sur un programme et vous devez impérativement mettre en œuvre ce programme et vous devez nous rendre compte régulièrement. C'est interdit par la Constitution. Autrement dit, votez pour nous et après, l'élection bloque tout système d'expression. J'ajouterai aussi la force, et c'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, la force de la manipulation et de la propagande. C'est quand même assez extraordinaire. La machine est en marche pour assurer la réélection d'un président qui va avoir un score à la soviétique du temps de Brejnev. C'est ça, plus c'est gros et plus ça marche. Et je suis quand même assez surpris, mais on va en discuter, par la capacité d'oubli, par le fait qu'on a eu quand même des manifestations contre Emmanuel Macron, qu'il était au plus bas, et qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des scores que j'ai déjà évoqués. Donc là, le vrai problème pour nous, c'est comment assurer autre chose et comment avoir une alternative à ce système qui, finalement, promet, mais c'est une forme de pâté d'alouette, on promet des formes d'expression qu'on limite tout de suite après. On a quand même quelqu'un qui va se faire élire en affirmant immédiatement qu'il est favorable à la retraite à 65 ans. J'attends avec impatience les vagues de protestation. Donc là, ben voilà, sur la première partie de mon intervention, cette prise de cette inquiétude qu'on peut avoir sur la manipulation de l'électorat, en plus sur l'électorat, on parle du suffrage universel. On dit ça y est, c'est fait. Il y a suffrage universel puisque les hommes, les femmes peuvent voter. Il y a tout un pan qui ne vote pas. C'est les immigrés, c'est les étrangers qui sont pourtant là depuis des années et qui n'ont pas le droit de vote.
Voilà. Sachant que dans les trahisons, la gauche a plusieurs fois dit durant les programmes qu'elle mettait en place que les immigrés, tôt ou tard, auraient le droit au droit de vote, au moins dans les collectivités territoriales où ils habitent, voire au-delà, quoi. Et là encore, trahison.
C'était dans les 110 propositions de François Mitterrand. Donc, voilà,
Je veux juste ajouter une toute petite chose. Si on parle d'abstention révolutionnaire, c'est qu'on ne se concentre pas de s'abstenir révolutionnairement. Hein, l'idée, c'est de dire, puisqu'on s'abstient et qu'on ne veut pas déléguer notre pouvoir pour 5 ou 6 ans à ces gens-là qui sont des professionnels de la formation, qui font carrière en plus, ce n'est même plus forcément trop des militants. Hein, c'est des gens qui font carrière après avoir fait des études supérieures plutôt poussées. Et quand on parle d'abstention révolutionnaire, ça veut dire que je m'abstiens une fois tous les 5 ans, mais je suis révolutionnaire tous les jours durant 5 ans et que je m'anime quelque part, que ce soit dans une association, que ce soit dans un syndicat, que ce soit dans un collectif de résistance à ceci ou cela. C'est-à-dire que d'une certaine manière, les anarchistes qui prétendent agir au lieu d'élire sont plus citoyens d'une certaine manière qu'un simple électeur qui, une fois tous les 5 ans, va se déplacer pour aller déposer son bulletin dans l'urne. Voilà. Et donc notre abstention, c'est pas du tout un déni du politique. C'est au contraire une participation régulière, journalière, aux politiques.
Alors, on pourrait aussi insister, parce que j'entends de la musique de temps en temps, on pourrait aussi insister sur... Alors, j'ai parlé des élections nationales, mais des élections locales. Et en ce qui concerne les élections locales, on a dans certains de nos milieux, des sensibilités qui s'intéressent aux élections municipales, en disant, si c'est proche du terrain, on est plus proche des habitants, on est plus proche de... Et donc on peut faire des choses. Et le fait est qu'on a un certain nombre de nos amis qui sont dans des conseils municipaux, notamment de communes rurales, et où finalement... La dimension politicienne n'est pas vraiment affirmée. Vous savez, quand on est dans une commune de 250 habitants, le trottoir, il est pas rouge, il n'est pas bleu, il n'est pas blanc. Le trottoir, il faut le refaire et il ne faut pas le refaire. C'est-à-dire qu'il y a une implication. Mais il n'empêche que ce qui me pose problème dans les élections municipales, c'est l'absence de légitimité d'un certain nombre d'élus locaux et particulièrement de maires. Vous savez que nous ne votons pas pour élire les maires, nous votons simplement pour élire le conseil municipal, et c'est le conseil municipal qui désigne le maire. Mais quand vous avez des taux d'abstention tels que nous les avons connus aux dernières élections, moi je connais des maires de villes de 50 000 habitants qui ont été élus par 5300 électeurs. Ça pose quand même entre nous un problème de représentativité. Donc quand on dit que les élus locaux sont élus par le peuple, d'abord pas tout le peuple, on voit ça dans certaines communes où il y a une forte population immigrée, et puis deuxièmement, l'abstention par le rejet, le dégoût, mais une abstention négative, rien à voir avec celle qu'on évoquait à l'instant avec Hugues, eh bien, cette abstention permet, puisque seuls les suffrages exprimés sont pris en compte, eh bien, seuls les votants, les suffrages exprimés, permettent la désignation du conseil municipal et par-delà, le maire. Et quand vous faites un schéma, vous apercevez que vous avez des maires qui ne représentent que 20% de la population. en termes de représentativité, c'est plus que discutable.
Oui, et même l'illusion du municipalisme, parce que ça a bien fonctionné, la gauche, la SFI en particulier et le Parti communiste avaient mis en place du municipalisme de gauche. Ça a foncièrement rien changé dans les communes. Elles sont gérées toujours de la même façon. Il y avait des politiques sociales peut-être un petit peu plus avancées, mais pas toujours plus avancées que certaines communes de droite pleines de pognon, qui pouvaient se permettre aussi, d'une certaine manière, grâce à cet argent, développer le clientélisme. Hein, je pourrais parler de Neuilly, de quelques endroits comme ça. Et puis, il faut mettre un bémol. C'est que dès qu'un conseil municipal va sortir un petit peu des sentiers battus, il va être mis sous tutelle. C'est le préfet qui va vérifier que le conseil municipal fonctionne comme un conseil municipal. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà été dans les conseils municipaux de vos municipalités, mais là aussi, normalement, vous avez le droit d'assister au conseil municipal comme citoyen. Vous n'avez pas le droit de participer. Et si vous participez en faisant un peu de chahut, le maire est en droit d'appeler les gendarmes, puisqu'il est le premier flic de la commune, pour faire évacuer la salle. Donc on n'a même pas le droit d'intervenir dans les débats municipaux durant le conseil municipal. Donc il faut attraper les élus quand ils sont au bistrot ou quand ils sont sur leur tracteur ou quand ils sont au cinéma.
Oui, vraiment sur ce point-là, sur ce qu'on appelle abusivement la notion de démocratie participative, cette notion de démocratie participative consiste essentiellement à consulter, dans le meilleur des cas, enfin à consulter la population, ou éventuellement organiser des débats. Mais ce qu'on oublie complètement, c'est les contraintes de cette même population qui a le sentiment de ne pas oser s'exprimer. Moi, je me rappelle d'un débat, je me suis, il y a très longtemps, opposé à un projet d'autoroute dans mon secteur, et j'avais des gens qui me disaient, des gens simples qui me disaient, mais comment pouvez-vous contester une décision qui a été prise par des gens aussi intelligents que les ingénieurs des ponts et chaussées, etc. Mais je dis, mais excusez-moi, moi je suis un citoyen, j'ai le droit de vote, j'ai le droit de payer des impôts, j'ai le droit de parler, tout comme vous. La notion de compétence ne signifie pas que, comme vous êtes simple, mettez simplement un bulletin dans l'urne. Ça, je crois qu'on a déjà ce premier point qui pose problème, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une revalorisation et que je crois aussi que les gens, les hommes, les femmes de ce pays doivent se donner les outils pour comprendre les enjeux. On est un peu dans de l'éducation pour permettre la prise de conscience politique.
Oui, tout à fait.
Et puis, il y a un autre aspect dans cette démocratie participative, c'est que quand on va désigner des gens pour représenter les quartiers, par exemple, se pose le problème de la démocratie dans la manière dont les gens sont désignés. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, on nomme les amis des amis. Voilà. Et donc, du coup, on n'est pas dans de la démocratie.
Voilà. Sachant que les décisions, même quand il y a de la démocratie participative, comme dans certains quartiers parisiens, vous avez le droit de discuter, on fait des grands projets, il y a une part infime du budget municipal qui est consacrée à ces moments participatifs, et de toute façon, la décision n'appartient pas à l'Assemblée qui s'est réunie pour en parler, elle appartient de facto et in fine, pour parler latin, au conseil municipal et à l'équipe qui est autour du maire. Donc, si le projet que vous portez de manière participative ne plaît pas aux élus, le projet reste à l'état de projet.
Oui, puisque, comme je le disais dès le départ, la souveraineté n'est pas exercée par les habitants, mais est exercée par ses représentants. On est dans une démocratie représentative, donc ça veut dire que ce sont les électeurs, ce ne sont pas les électeurs qui décident, ce sont les élus. Et on a un exemple d'illusion de budget participatif sur la ville de Paris. Je me tourne vers un de nos amis qui est là présent. On devait avoir une magnifique fresque relative à la Commune de Paris qui devait être inaugurée au moment du 150e. Eh bien, cette fresque, elle a été adoptée. Enfin, le principe a été adopté lors d'un budget participatif avec un nombre de participants tout à fait discutable, c'est-à-dire qu'il y a un problème là aussi de légitimité quand même de la part des gens qui participent ou pas, et puis on s'aperçoit qu'en fait la fresque, elle n'existe pas. Tout simplement parce qu'on a illusionné les gens et on leur a fait croire que oui, on allait faire, et on n'a rien fait. Alors on va nous dire, ah ben c'est la faute au Covid. Ça, vous savez, c'est, moi j'ai connu ça, la tempête de 99, pendant... Mais ça nous a pris au moins 8 ans à chaque fois qu'il y avait un problème. Ah oui, mais il y a eu la tempête de 99. Et bien là, avec le Covid, ou la Covid, ben c'est exactement le même truc. Là, ça va nous servir un bon moment pour ne rien faire ou pour se déjuger.
Radio Libertaire, 89.4, les chroniques syndicales et...
Au fil des pages.
Sans doute, mon amour, on n'a pas eu de chance. Il y avait la guerre et nous avions 20 ans. L'hiver de 70 fut hiver de souffrance et pire est la misère en ce nouveau printemps. Les lilas vont fleurir, les hauteurs de Belleville, les versants de la butte et le bois de Meudon. Nous irons les cueillir en des temps plus faciles. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Nous avons entendu la voix des camarades. Les Versaillais infâmes approchent de Paris. Tu m'as dit avec toi, je vais aux barricades. La place d'une femme est près de son mari. Quand le premier de nous est tombé sur les pierres, en dernière culbute, une balle en plein front. Sur lui tu t'es penché pour fermer ses paupières. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Ouvriers, paysans, unissons nos colères. Malheur à qui nous vole en nous avilissant. Nous voulons le respect et de justes salaires et le seuil des écoles ouvert à nos enfants. Nos parents ne savaient ni lire ni écrire, on les traitait de brutes, ils acceptaient l'affront. L'égalité, la vraie, est à qui la désire, la commune est en lutte et demain nous vaincrons. Les valets des tyrans étaient en plus grand nombre. Il a fallu nous rendre, on va nous fusiller. Mais notre cri d'espoir qui va jaillir de l'ombre, le monde va l'entendre et ne plus l'oublier. Soldats, obéissez aux ordres de vos maîtres, que l'on nous exécute en nous visant au cœur. De notre sang versé, la liberté va naître. La commune est en lutte et nous sommes vainqueurs. La commune est en lutte et nous sommes vainqueurs.
La commune est en lutte, Jean-Roger Cossimon, sur Radio Libertaire 89.4 en direct de la salle Olympe de Gouges.
Voilà, salle Olympe de Gouges pour les 40 ans de Radio Libertaire. Alors, Radio Libertaire, à la limite, c'est un bon exemple de démocratie participative, puisqu'on fait des assemblées générales régulières et que les décisions concernant cette radio se prennent au congrès de la Fédération anarchiste, où effectivement, même des copains marseillais peuvent avoir leur mot à dire sur le fonctionnement d'une radio qui est parisienne du point de vue de la FM et nationale, voire internationale, depuis que Internet existe. Voilà, on a dit deux, trois choses, Francis et moi, sur cette question de l'abstention révolutionnaire et du agir au lieu d'élire. On a un micro à chef dans la salle, donc si vous souhaitez compléter, discuter, même apporter une contradiction à nos propos, il n'y a aucun problème, parce que là encore, on est dans la démocratie directe.
J'en profite pour ajouter que nous venons d'écouter une chanson sur la Commune de Paris et que nous sommes, Hugues et moi, membres du groupe Commune de Paris. C'est pour ça qu'on a un attachement particulier à ce moment historique et puis à ce que nous avons entendu à l'instant.
Est-ce que tu pourrais revenir sur le mandat impératif dont tu as parlé tout à l'heure ? Parce que je n'ai pas tout compris, en fait, quand tu as parlé de mandat impératif par rapport à la démocratie représentative et à l'interdiction, tout ça. Est-ce que tu peux revenir dessus ?
Oui, quand on désigne des représentants, la logique voudrait que ces représentants soient désignés sur la base d'un programme qui a été discuté avec les représentés, entre guillemets, et que ce mandat, eh bien, que ce programme, pardon, ils le mettent en œuvre, et que si pour des raisons X ou Y, je comprends tout à fait que pour des raisons X ou Y, bon, on est élu sur une liste aux élections municipales, par exemple, et puis on dit on va faire ci, on va faire ça, et puis on s'aperçoit que ben, on voulait faire quelque chose là, puis il y a de l'amiante, et puis il faut changer, ça, ok. Mais dans ce cas-là, le mandat impératif, ça veut dire qu'on retourne devant nos représentés, devant les représentés, en disant, ben voilà, chers amis, voilà le problème, donc on ne va pas pouvoir faire ça comme ça. La difficulté, c'est que dans la Constitution de 1958, ouais, Philippe se met juste en face de nous, évidemment, et donc dans la Constitution de 1958, il est expressément écrit que nous n'avons, enfin, qu'il n'y a pas de mandat impératif. C'est-à-dire que ceux qui se font élire sur un programme où on vous promet la Lune peuvent simplement vous dire « bah finalement, je vous emmène à Rambouillet parce que je ne peux pas vous emmener sur la Lune ». Et personne ne peut les critiquer parce que interdiction du mandat impératif. Le mandat impératif, ce n'est pas d'aller droit dans le mur. Si on ne peut pas y aller, on ne peut pas y aller. S'il y a des inondations, si on est sur une zone inondable, on ne va pas dire ben, « c'est pas grave, je construis quand même ». Mais il faut rendre compte, la notion de rendre compte qui était dans la base de la Commune de Paris, justement, et qui est dans la base aussi d'un certain nombre d'expériences, d'initiatives. On a eu quand même en France quelques cas de communes, aujourd'hui, encore aujourd'hui, où les élus locaux rendent compte et vont discuter. C'est pas le compte-rendu de mandat qu'on fait payer et qui permet de la réélection. C'est vraiment d'aller discuter avec les gens. Et là où je l'ai vu, puisque je bourlingue pas mal en France pour des raisons professionnelles, eh bien, là où je l'ai vu, c'est plutôt dans les petites communes.
Voilà. Pour te donner un exemple, à la Fédération anarchiste, par exemple, où effectivement, on fonctionne dans le cadre du fédéralisme libertaire, nous avons un certain nombre de copains et de copines qui ont des mandats fédéraux, donc qui nous représentent d'une certaine manière, mais cette représentation, tous les mois, est remise en question. C'est-à-dire que tous les mois, on appelle ça à la Fédération anarchiste un comité de relations, où tous les mandatés sont supposés être présents, et tous les militants et toutes les militantes peuvent venir interpeller le mandaté sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il n'a pas fait, ou éventuellement ce qu'il pourrait éventuellement faire s'il y a quelque chose de nouveau, comme une inondation, mais c'est pas ce qu'on gère nous exactement, quelque chose de nouveau qui arrive. Par exemple, les copains en ce moment, en relations internationales, n'avaient pas de mandat sur l'Ukraine. Il est bien évident que, du fait de la guerre en Ukraine, le secrétaire aux relations internationales a dit « qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on envoie de l'argent? Est-ce qu'on prend des positions de telle ou telle manière ?» Il a consulté sur les listes Internet, et on le voit la semaine prochaine pour en discuter avec lui. Parce que là aussi, il est impératif pour des choses qu'on peut prévoir, mais quand on ne peut pas les réaliser, l'impératif tombe, et quand les choses n'étaient pas prévues, il faut aussi laisser de la marge à ceux qui ont la capacité à conduire les opérations sur une année ou deux années, quoi. Sachant que là aussi, c'est la durée des mandats qui pose problème. Là encore, exemple de la Fédération anarchiste, qui vaut ce qui vaut. Les mandatés sont mandatés pour un an. Les mandatés qui nous représentent ou sont supposés nous représenter dans les élections traditionnelles sont mandatés pour 5, 6 ans, voire davantage.
Imaginez quelqu'un qui est élu pour 6 ans, réélu pour 6 ans, 12 ans. En 12 ans, moi, j'ai vu ma ville profondément changer. Et quand on est sur des grandes collectivités, non seulement il y a la question de l'élu qui a le pouvoir, parce que de toute façon, il vous dit bah, « vous m'avez élu ». Bon. Et deuxièmement, vous avez une technostructure, on en parle peu de ça, mais il y a le pouvoir aussi de la technostructure qui prend le pouvoir des élus et qui prend le pouvoir de la population pour décider d'elle-même. Et de ce point de vue-là, moi qui ai été plutôt favorable à l'intercommunalité pour différentes raisons, je me rends compte que l'intercommunalité a favorisé les communautés de communes, communautés d'agglos, etc., ont favorisé l'émergence d'une technostructure où les élus n'ont plus la main et la population n'a plus la main non plus. Donc ça, c'est aussi un autre aspect, le poids de la technostructure.
Voilà, quelqu'un dans la salle souhaite avoir la parole pour intervenir sur cette question de l'abstention révolutionnaire en cette période d'élection, pour le coup. Ouais. Ah non, c'est dans la salle à côté. Personne ne souhaite intervenir. Vous êtes absolument d'accord avec nous. Vous vous abstenez révolutionnairement de nous interpeller. Les deux sont possibles. Je sais pas que... Oui, donc, le micro.
Moi, j'ai une question que je me pose, qui est la suivante. C'est que les anarchistes peuvent décrire d'une manière assez précise et le pourquoi du non-intérêt de ne pas voter et de décrire et de décrypter même les processus démocratiques qui font qu'en vérité, ces processus démocratiques sont des processus qui ne nous permettent pas en fait, d'agir au quotidien, de vivre notre vie, de prendre nos décisions, etc. Bien. En contrepartie, il y a une foultitude de gens qui sont complètement inintéressés par la question de leur vie au quotidien, qui ne vont pas voter, non pas parce qu'ils ont une pensée politique, mais parce que soit ils en sont désintéressés parce qu'ils ne comprennent pas, soit parce qu'on leur a expliqué qu'ils n'auraient pas les moyens de penser, etc. etc. Mais dans un sens, est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant de se dire... N'utilisons pas. Est-ce qu'il est utile d'utiliser en fait même 2 secondes d'énergie pour expliquer aux gens de ne pas aller voter, puisque de toute façon, on est en train d'observer que d'une manière assez statistique, les gens votent de moins en moins, et d'utiliser plutôt notre temps, ou le temps des anarchistes, le temps d'une pensée, disons, on va dire positive, d'une pensée pour proposer, mettre en œuvre ce qu'il fut à un certain temps, on appelait des alternatives, bien que nous savions que l'alternative, c'est pas malin, alternatives, de mettre en œuvre plutôt les actions, les choses que nous sommes en train de faire, en abandonnant l'idée de se dire, bon, en gros, allez voter, n'allez pas voter, c'est votre problème. Nous, ce qu'on est en train de faire, c'est autre chose. Et cette autre chose, on vous le propose. Ou on le fait, en vérité même, on le fait. Et dans un sens, ce temps d'énergie-là à expliquer pourquoi la démocratie ne fonctionne pas, voilà. Voilà, c'est une première question que j'ai envie de me poser.
Moi, je répondrais bien à cette interrogation par 2 choses. D'une part, si les gens sont désintéressés, c'est que souvent, les choses qu'ils sont supposés pouvoir gérer sont trop importantes en termes de taille. Et il faut sans doute réduire les choses et apprendre à gérer les choses au niveau de son quartier, au niveau de son immeuble, au niveau éventuellement de son village. Des choses qui sont accessibles. Effectivement, si on vous demande de gérer le système énergétique de la France, c'est extrêmement compliqué. Donc apprendre à gérer les choses au niveau micro. Et je pense que l'éducation populaire en particulier, voire l'éducation tout court, pourrait apprendre... aux jeunes gens à gérer leur classe, par exemple, à gérer leur école. Et une fois qu'on aura appris à gérer sa classe, à gérer son école, il n'est pas dit qu'on n'aura pas envie de gérer son usine ou son bureau, voire son village, voire des zones géographiques bien plus importantes avec des systèmes de délégation contrôlés avec des mandats révocables, bien évidemment, dans certaines conditions. Et là encore, c'est pas que les gens se désintéressent toujours. C'est qu'ils ne se sentent pas capables parce qu'on leur a bourré le mou, qu'on leur a dit « Vous n'êtes pas capables ». Et vous n'êtes pas capables parce que vous n'avez pas été éduqués pour le faire. Et donc, il y a des spécialistes de la politique qui, eux, ont été éduqués pour nous représenter et qui font ça extrêmement bien après avoir fait des études tout à fait convenables dans d'autres lieux.
Dans ce cas-là, par exemple, pourquoi se dire la Fédération anarchiste ne pourrait pas décider d'aller essayer de convaincre la totalité des syndicats de France, des grandes associations de France, etc., en disant, messieurs, mobilisons-nous pour une chose, par exemple, c'est que dans tous les programmes scolaires de France et de Navarre, eh bien, on décide que dans toutes les écoles, on mette dans le programme scolaire des enfants la gestion directe, l'apprentissage de la gestion directe, et que ça devienne une chose très importante, une mobilisation pour ça, en disant que ce qui est important pour nous, c'est que la gestion directe, c'est une chose. Et alors, il faut que tout le monde en entende parler dès la maternelle. Et pour ça, il faut que les professeurs d'éducation nationale sachent de quoi ça s'agit. Et donc, qu'on transforme l'idée en disant, luttons-nous, faisons des affiches pour ça, plutôt que des affiches sur éviter de voter.
Oui, mais enfin, là, encore, ces choses-là ont été tentées. Je veux dire, il y a des courants pédagogiques dans ce pays, hein, que ce soit le GFEN, que ce soit le courant émancipation, que ce soit le courant Freinet, qui ont tenté de mettre en place des structures coopératives auprès des plus petits pour que ces enfants apprennent à coopérer et à fonctionner autrement que dans la société de la compétition dans laquelle nous sommes, en fonctionnant sur la coopération et l'émulation. Le problème, si ça ne s'est pas développé, même si c'est pédagogiquement tout à fait de bonne qualité, c'est que ça va donner le mauvais exemple. Effectivement, ça va donner des idées aux gens. Moi, j'ai un peu travaillé sur ces questions-là. Il y a des collègues, des gens de Rouen qui ont fait des travaux sur les écoles Freinet sur une grande durée, puisque Freinet, c'est 1920 avec la Fédération des enseignements révolutionnaires jusqu'à aujourd'hui encore. Et ce que disent tous les gens qui sont passés par les écoles Freinet et des structures un peu de même nature, première chose, c'était vraiment sympathique d'aller à l'école. Alors ça, c'est un discours qu'on n'entend pas ou rarement dans les écoles traditionnelles, où on s'ennuie assez globalement, et plus encore aujourd'hui qu'hier. Et ce qu'ils ont dit, c'est que, par ailleurs, ça nous a coûté socialement cher. Parce qu'ils se sont syndiqués, parce qu'ils ont râlé, parce qu'ils prenaient la parole, et qu'ils ont pris des coups sur le museau, parce que, justement, ils ont tenté d'exercer ce qu'on appelle comme ça, un peu rapidement, leur citoyenneté.
Et en plus, ce qui me gêne beaucoup, c'est que l'ensemble des organisations jouent dans le système de la démocratie représentative. Là où Hugues parlait des trahisons diverses et variées, mais dans les années... Il y a un bouquin, d'ailleurs, qui est sorti sur le municipalisme, fait par une Italienne, qui était très, 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 très intéressant. Eh bien, au début du siècle dernier... notamment la SFIO dans ses différentes composantes, enfin à partir de 1905, c'est considéré qu'il fallait conquérir le pouvoir, mais pour faire la révolution. Alors est-ce que c'était affirmé ou pas? Bon, ça c'est un autre débat, c'est pas le lieu pour en débattre, mais en tout cas l'objectif c'était pas de conquérir le pouvoir pour le conserver. Or aujourd'hui toutes les organisations politiques, syndicales, associatives globalement sont dans cette logique de conquérir le pouvoir pour le conserver. Et ça c'est quelque chose contre lequel on doit s'exprimer parce que on doit s'exprimer et on doit agir là où nous le pouvons, avec nos forces, mais en jouant cette carte du témoignage et de réaffirmer qu'une autre démarche est possible, une autre attitude est possible.
Non, touche pas.
Que se passe-t-il si quelqu'un qui a un mandat ne respecte pas ce qui a été prévu par l'Assemblée ?
Où ça, à l'Assemblée nationale ?
Dans une organisation anarchiste.
Ah, dans une organisation anarchiste.
Dans une organisation anarchiste, en principe, le mandaté doit rendre son mandat. Voilà, quand on lui fait savoir collectivement que ce qu'il fait n'est pas juste ou n'est pas en cohérence avec ce qui a été décidé, c'est à lui de rendre son mandat. Dans certaines organisations, il y a des modalités de sanctions, donc de... voilà, dans d'autres pas, mais on fait confiance à l'intelligence du mandaté en disant « je suis désavoué par mes compagnons et mes compagnes, donc je vous rends le mandat ». La question aussi qui se pose, c'est très facile de désavouer un mandaté. Et donc quand on désavoue un mandaté, il faut aussi relever ses manches en disant « puisque ce mandaté est désavoué et qu'il ne pourra plus assurer le mandat, il faut que moi, qui l'ai désavoué, ou le groupe qui l'a désavoué, prenne en charge les choses qu'il était supposé réaliser ». Parce que c'est un peu trop facile de dire « c'est pas bien, c'est pas beau, c'est pas bien fait », de le désavouer et de le faire partir et laisser la place vacante. Donc là aussi, c'est prendre ses responsabilités. Certes, le mandat est impératif. Certes, il est contrôlé. Certes, le mandaté est révocable. Mais il faut que ceux qui le révoquent prennent leurs responsabilités.
Oui, c'est trop facile de démolir les gens et ce qui se fait sans rien proposer à la place. C'est un peu faible, ça.
Vous allez faire de la publicité ?
Comment ? Oui, je voudrais faire de la publicité pour une excellente revue qui s'appelle Le Monde Libertaire. Et le numéro de mars est consacré à l'abstention, abstention-rébellion. Et il y a... Moi, j'aime beaucoup... j'aime beaucoup l'ensemble des articles, mais particulièrement un article qu'a fait notre ami Ramon Pinault sur un
du
texte...
Groupe Segui, ouais.
Du groupe Segui, en effet, qui est vraiment très bien. Et puis, j'aime beaucoup aussi les extraits, d'un article, qui est paru dans le Figaro. Vous vous rendez compte de l'époque de l'époque, Octave Mirbeau, La grève des électeurs. Alors, ce sont des extraits, évidemment. Le texte intégral, vous le retrouvez dans une revue dont nous parlerons dans Au fil des pages le 23 mars. Et c'est assez intéressant. Et s'il existe, et Octave Mirbeau conclut ainsi, s'il existe un endroit ignoré, un honnête homme capable de te gouverner et de t'aimer, ne le regrette pas, il serait trop jaloux de sa dignité pour se mêler à la lutte fangeuse des partis, trop fier pour tenir de toi un mandat que tu n'accordes jamais qu'à l'audace cynique, à l'insulte et au mensonge. Je te l'ai dit, bonhomme, rentre chez toi et fais la grève des électeurs. Bon, c'est Mirbeau, c'est un pamphlet, c'est enflammé, mais c'est, bon, c'est amusant, quoi. C'est, voilà. Mais c'est, ça interpelle aussi, et il y a d'autres articles assez intéressants, justement, qui essayent de proposer d'autres solutions. Donc, le numéro du Monde Libertaire qui est en vente à l'entrée.
Voilà. Pour revenir sur les alternatives aussi, là encore, il faut faire attention à ce qu'on fait. Les alternatives, c'est pas... Les anarchistes peuvent tenter d'en mettre en place dans leur précaré, mais c'est pas non plus aux anarchistes de décider des bonnes alternatives et des bonnes ZAD à monter. Par contre, quand il y a des ZAD qui se montrent, on a toute chance et toute obligation d'y participer, comme n'importe quelle personne partie prenante de la ZAD en question. C'est-à-dire qu'à la fois, on est pour ce type d'action, mais on n'est pas... une avant-garde éclairée de type léniniste qui va aller dire à la population « mène ton alternative sur ceci, mène ton alternative sur cela, et le parti te dira si c'est bien ou s'il faut que tu cesses ». Donc là encore, certes on y participe, certes on peut en développer certaines, reste qu'on n'a pas à y prendre le pouvoir et on n'a pas à dire si ces alternatives sont justes ou ne le sont pas. Enfin, sauf si elles sont menées par des afro-fascistes, mais ça c'est une autre paire, et ça s'appelle pas, des alternatives. D'autres interventions dans la salle ? Oui, donc le micro se déplace grâce à Frédéric, qui nous arrive quasi du Luxembourg en plus, vous imaginez ?
Oui, moi je considère qu'en effet, là, ces élections qui vont venir, c'est important, parce qu'on va élire, va être élu un nouveau monarque présidentiel qui a un pouvoir exorbitant ensuite dans la société. Et puis là, ensuite, dans la foulée, hop, le Parlement, les législatives, après les présidentielles, lui donnent pratiquement un pouvoir encore plus, plus fort pour décider tout à notre place. Donc on est complètement désorienté de voir de subir une situation pareille qui se répète au fil des élections. S'ils appellent ça la démocratie représentative. Mais en fait, c'est à partir de la politique de parti. Alors on a toute la palette maintenant, qui on l'a bien vu, de l'extrême droite, droite, centre-droit, centre-gauche, gauche, extrême-gauche. Bon, alors on vous dit, vous rentrez dans un bureau de vote, prenez votre bulletin, parce que moi j'ai été voir pour me rendre compte un peu de comment on était manipulé par tout ce système politique qui en rajoute encore au moment des... dans les actualités, de toute l'information, l'intox idéologique de la bourgeoisie capitaliste. Alors là, elle est au maximum quand il y a des élections qui se préparent. On a aussi une floraison de journalistes à la con qui font venir sur le plateau donc les différents partis suivant leur représentativité qu'on suppose. Et puis en bas de l'écran, on voit souvent maintenant les chiffres des partis, alors on va les inviter en fonction des sondages. Alors le sondage, c'est encore une belle arnaque pour décider même d'élections à l'avance, influencer l'esprit des électeurs. Maintenant, vous voyez bien, c'est la droite et l'extrême droite qui mènent la barque, et puis la gauche est à la ramasse. Voilà, donc déjà pour décourager les gens. Et puis, j'ai été voter parfois pour me rendre compte. J'avais l'impression de me faire manipuler, arnaquer par les élus qui avaient déjà le pouvoir, dans les communes ou même des élections importantes, parce qu'on parle de la France. mais eh ben, les décisions, on s'en rend compte là, justement au moment de la guerre. Il parle justement, l'extrême droite parle d'une souveraineté parce qu'on est dépossédé aussi par l'Union européenne des décisions budgétaires. Hein. Donc voilà, il faut suivre toutes les politiques d'austérité et du néolibéralisme capitaliste. Il vient de l'Union européenne qui va limiter les budgets forcément des États pour casser l'éducation, la culture, la santé. Oui, bon. On va serrer la ceinture et par contre déverser de l'argent à perte à la mafia du patronat, entre gouvernement et patronat pour les arrangements.
Merci à toi, je vais devoir te couper parce qu'on a une autre émission qui va démarrer. Un dernier mot.
Faut passer aux actes. Alors donc tout ce qui est pour ne pas subir, aller voter extrême gauche, trotskiste ou marxiste-léniniste pour des scores dérisoires, ça vaut même pas le coup. Donc moi je pense que il faut faire des campagnes de boycott, hein, agir au lieu d'élire, arrêter de nous prendre pour des cons et dire nos votes politiques, on n'en veut pas, ça suffit. Ces représentants capitalistes qui se foutent de notre gueule, qui sont des bourgeois qui ont tout le fric. Et l'argent pour
D'accord.
Nous enfler complètement. Voilà.
Bien, merci. Merci à toi. Merci à toi. Voilà, sachant que on va continuer de parler aujourd'hui, donc ça sera la conclusion, on te la laisse, avec simplement pour vous signaler que la Fédération anarchiste engage une campagne anti-électoraliste et qu'il y a du matériel anti-électoraliste disponible à publico, autocollants et affiches. Donc là encore, n'hésitez pas à agir pour ne pas élire. Merci à vous. Et on va passer à une deuxième émission après une pause musicale, mais on va vous raconter ça tout de suite.
Voilà. Bon.
C'est à nous aujourd'hui de savoir comment on occupe l'espace public.
La rue, elle est à
nous. Le gouvernement et les partis officiels, d'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, nous ne donnerons pas cette parole et c'est à nous de savoir comment faire entendre notre voix.
Il ne faut pas se battre avec leurs outils à eux, parce que c'est eux qui les ont inventés, c'est leurs règles du jeu, c'est eux qui les maîtrisent. Et si tu veux être sûr de perdre un jeu, joue avec celui qui a inventé la règle.
Chacun sa case, on oublie la lutte humaine. Colonisation trop subtile. Si je lutte contre la machine, pourquoi utiliserais-je les règles? Apartheid, social et culturel, le changement ne viendra pas d'en haut, on l'a compris. La guerre aux pauvres est déclarée. Nos institutions ne sont qu'au service de l'ennemi. Arrêtons de coopérer, arrêtons de coopérer.
Là en face de nous, des gens qui sont pas dans la même volonté d'arranger les choses.
Ayons confiance dans notre capacité à créer des choses nouvelles.
La vie de ceux que j'aime, elle est en danger, t'as vu? Parce que quand la police, elle est supposée nous protéger, qu'est-ce qui nous protège d'eux? Personne.
La chasse à l'étranger voulue par Nicolas Sarkozy et son gouvernement s'accélère. Cette politique n'est qu'un copier-coller de celle de l'extrême droite.
Ça expulse des familles, des familles. De plus en plus de répression. Les infos se resserrent, de plus en plus de répression. Caméras de surveillance, de plus en plus de répression. Réapproprions-nous nos vies. On a besoin de créer de nouvelles vies.
C'est visé à un système qui soit horizontal, donc tout le monde aurait du pouvoir sur sa vie.
La politique se la réapproprier, la parole se la réapproprier, la rue se la réapproprier, les maisons se les réapproprier, se réapproprier tout.
Désobéissant, désobéissant, fasciste institutionnel, désobéissant, arrêtons de coopérer, désobéissant, on est la force de leur machine, désobéissant, le changement viendra d'en bas, d'en bas, d'en bas, autre chose et autre nom.
Ce qu'il faut, c'est réinventer son métier.
On doit comprendre que pour se défendre, il faut se rassembler. Mais il faut se rassembler, il faut avoir confiance en soi. Il faut croire en soi.
Surtout, n'ayez jamais pensé qu'on est isolé. Parce qu'on est connecté, on est des millions.
Construire quelque chose par l'autre. C'est pas qu'en France, tu vois. C'est partout dans le monde la même. Parce que c'est partout dans le monde le même système de merde.
Il n'y aura pas de changement si la forme ne suit pas le fond. Si nos méthodes d'organisation restent les mêmes, on reproduira les mêmes erreurs.